Voix nue. Cette semaine, Guillaume Erner rencontre Philippe Val. Ce soir, une jeunesse solitaire.
Personnalité à activités multiples, aux facettes successives, tour à tour chansonnier, patron de presse, patron de radio, essayiste, amoureux de la polémique et des batailles d'idées. Bonsoir Philippe Val.
Bonsoir Guillaume.
Vous avez aujourd'hui eu envie de revenir sur votre trajet intellectuel. Il y a tout d'abord une naissance en 1952 à Neuilly. Neuilly, c'était un peu Paris.
C'était Paris, c'était la Seine, c'était l'hôpital le plus proche pour ma mère. Mais voilà, on est parisiens. Alors, eux, ils viennent sans doute de... ma mère avait de la famille dans le centre de la France, mon père en Seine-et-Marne, et puis, puis Paris, quoi. Donc c'est la France blanche.
Quel souvenir de cette enfance ?
Pas terrible. Mon père était boucher, chevalin, en banlieue, à Nanterre. Ma mère, par amour pour mon père, dans un premier temps, parce qu'après ils se sont moins aimés, mais elle avait quitté la coiffure pour devenir elle-même bouchère, ce qui est quand même difficile. Et puis finalement, ils ont fait 4 enfants. Et puis, ils se sont séparés quand j'étais très petit. Et ma mère est un peu disparue. Enfin, pas complètement, bien sûr, mais elle a quand même un peu disparu. Et c'est mon père qui nous a élevés. Donc, j'ai vu ma mère partir quand j'avais 4 ans. Enfin, j'ai compris le jour de mon anniversaire, le 14 septembre, que c'était pas ma mère qui était là, et une autre femme dont on me disait le plus grand bien, mais qui n'était pas ma mère. Donc mon enfance a été quand même marquée par ce petit événement qui est la disparition de ma mère, quoi.
Partie, c'est-à-dire ?
J'imagine qu'ils ont couché à droite, à droite, ailleurs, et puis qu'à un moment donné, ils sont tombés amoureux d'autre chose. Mais voilà. Et à l'époque, ça se faisait pas trop... Enfin, ça se faisait moins de divorcer, disons que... Mais surtout, ce qui se faisait encore moins, c'était que le père garde les 4 enfants. Mais pourquoi les a-t-il gardés ? C'est parce que je pense qu'il avait un petit peu d'argent, que le fonds de commerce était à son nom, et que ma mère est partie avec sa valise. Donc, il avait les moyens, il y avait la maison, enfin, la petite maison. Et on vivait assez, pas richement, mais pas pauvrement non plus. Mon père et ma mère venaient de milieux très pauvres. Et c'était la petite bourgeoisie qui se constituait après la guerre, qui passait de la pauvreté à la bourgeoisie, via le petit commerce. Beaucoup de travail, beaucoup de dureté. J'avais des frères, 3 frères, j'ai toujours 3 frères, d'ailleurs ils sont charmants tous les 3. Et j'étais le plus petit, j'étais enfermé dans ma bulle parce que finalement j'aimais surtout un chat et un chien. Et la bonne, parce que à cette époque-là, même les gens pauvres avaient une bonne. Et cette bonne, elle a été comme une espèce d'amie, de maman, avec moi, je l'aimais beaucoup, beaucoup. Et mon père s'est remarié, bien sûr, tout de suite, avec sa maîtresse, qui a voulu effacer les traces de ma mère. Toutes les traces de ma mère. Il fallait que rien ne reste de ma mère. Elle a choisi d'être héroïque en étant... une belle-mère exemplaire. Elle a essayé de l'être. Elle n'y est pas vraiment parvenue, mais parce qu'on n'efface pas un enfant. On n'efface pas, vraisemblablement aussi, l'amour irrépressible qu'un enfant a pour sa mère, avant même qu'il sache ce que ça veut dire que l'amour, quoi. Bon. Voilà, l'enfance, c'était un peu pénible, parce qu'il fallait mentir. Beaucoup. Parce que l'évocation d'une mère était sanctionnée.
Par qui ?
Eh ben, c'était très compliqué. Enfin, le processus était assez bergmanien, on pourrait dire. C'est-à-dire, si je voyais ma mère, parce qu'il est de temps en temps, il fallait bien quand même que je la voie. Elle habitait dans un autre arrondissement. Il fallait prendre le métro. Et quand on rentrait ensuite à Nanterre, on sentait que l'ambiance n'était pas bonne parce qu'on avait vu notre mère. Et que c'était pas bien. C'est comme si on avait fait une faute très grave alors qu'il nous avait dit d'aller la voir. Hein. Et on se faisait pas tout de suite engueuler. Il fallait qu'il y ait un prétexte. Un truc, un verre qui tombe, enfin une bêtise un peu anodine. Et là, ma belle-mère, qui faisait la gueule depuis déjà une heure ou deux parce qu'on était rentrés de chez notre mère, provoquait quelque chose. Mon père aimait pas que sa nouvelle femme fasse la gueule. Et la façon, la solution qu'il avait trouvée pour qu'elle fasse plus la gueule, c'était de nous taper dessus quand on revenait de chez notre mère. En gros, il trouvait un prétexte. Il nous tapait pas dessus parce qu'on avait vu notre mère, mais il nous tapait dessus parce qu'il y avait une chose qui lui avait déplu dans un comportement, ou alors qu'on n'était pas venu assez vite à table quand il avait appelé, ou c'était une avalanche d'engueulades et aussi de coups. Pourtant, c'était pas des mauvaises personnes. Mon père était pas un mauvais homme, et il était intelligent. Mais il était soumis à sa nouvelle femme, qui ressentait une jalousie féroce vis-à-vis de ma mère, mais via nous, via les enfants. Tout en étant la meilleure belle-mère du monde, enfin, tout ça était très désagréable pour les enfants.
Vous étiez à quelle position dans la fratrie, Philippe Val ?
J'étais le dernier. Donc j'étais ce qu'on pouvait appeler celui qu'il fallait réussir dans cette histoire un peu tordue. Celui qui aimait le plus sa nouvelle maman, celui qui travaillait le mieux à l'école, celui qui était équilibré, etc. Donc c'était une position absolument déplorable. J'étais ce qu'on appelait peut-être le préféré, ce qui est la pire des choses, quoi, parce que j'étais le plus surveillé du coup, le plus contrôlé, et l'objet de toutes les jalousies justement, le canal des jalousies le plus passionnel entre... C'était pas agréable du tout, sauf que j'aimais beaucoup les animaux, et j'ai eu beaucoup de bonheur avec ces deux bestioles, un chat, un chien, et puis cette bonne...
Elle s'appelait comment ?
Elle s'appelait Ginette elle était aussi ma marraine, parce que dans les familles, comme ça, la bonne était souvent un peu intégrée par un truc comme ça. Et finalement, elle est partie aussi au bout d'un an. Et ça, pour moi, ça a été une vraie catastrophe.
Au bout d'un an ? Donc ça a été très court.
Très court. Un an après le départ de ma mère. Oui, parce qu'elle avait connu ma mère. Elle était un témoin de l'existence du monde d'avant. Et donc, c'était pas très bon, quoi. Moi, j'étais réfugié beaucoup. J'avais un phoneau à manivelle. Ça paraît un peu con de dire ça parce que ça fait très vieux, mais c'était comme ça. J'avais un phoneau à manivelle avec des 78 tours. Et j'écoutais énormément. C'était les animaux et la musique. Et la bonne, si vous voulez, mon monde. Je voyais ma mère de temps en temps. Ma mère, il y avait une chose très particulière. Elle était très belle. Elle ressemblait à ces héroïnes un peu d'Hitchcock, blondes, les yeux bleus, des traits très fins et un petit peu de froideur dans le regard. J'adorais ma mère, je la trouvais super belle. Et puis elle conduisait une voiture, elle avait une petite 4 chevaux et je trouvais ça hyper sexy qu'une femme conduise une voiture. À l'époque, ça se faisait pas beaucoup. Et ma mère a compris très vite que si elle jouait son rôle de mère, elle intervenait dans l'éducation, elle se mêlait des affaires de mon père, d'une certaine façon, et de ma belle-mère, on vivrait un enfer extrêmement cruel. Elle savait déjà que son existence était lourde à porter pour nous, mais du coup, elle a fait quelque chose de très particulier. Elle a abdiqué complètement, très vite, tout de suite, son rôle de mère. C'est-à-dire qu'elle n'était plus ma mère. Quand je la voyais, c'était pas ma mère. C'était une dame sympa, avec qui je pouvais parler de tout, qui était une amie. Ma mère était une copine. Je voyais cette femme que j'adorais, mais j'avais pas avec elle les rapports d'un petit enfant avec sa maman. J'avais des rapports différents, je sais pas comment dire ça. Donc mes deux premières relations humaines de confiance forte, où je pouvais me parler librement, me livrer, etc., c'est deux femmes. C'est ma mère et la bonne, si vous voulez.
Que faisait-elle, votre maman ?
Elle est retournée à la coiffure, mettre des bigoudis sur la tête des dames. Et je trouvais ça super chic aussi, je trouvais tout chic chez ma mère de toute façon. Tout était bien, tout ce qu'elle faisait, je trouvais ça bien. Elle était le monde du dehors, elle était le monde de la liberté, elle était le monde où on pouvait dire des gros mots, elle était le monde où on pouvait dire des grosses bêtises. Mais c'était pour moi une relation avec le monde des adultes d'amitié. Ma mère, quand j'entendais parler d'elle, j'entendais parler en mal. Cette femme qui est partie, quand même, en laissant ses enfants, c'est quand même incroyable, en laissant ses enfants, et qui aime beaucoup les animaux. Je me demande pas si elle préfère pas les animaux aux enfants. Alors, on disait pas à ses enfants, mais c'était pas loin, quoi. les animaux aux enfants. Elle préférait. Oui, je comprends qu'on préfère les animaux aux enfants. D'ailleurs, moi, je trouvais ça très bien parce que je trouvais les enfants insupportables, brutaux. J'avais peur d'eux.
Vos frères ?
Mes frères, non. Mes frères étaient plus grands que moi et ils ont été traumatisés. Ils se sont groupés un peu entre les plus grands. Moi, j'étais un petit peu seul. Il restait donc la musique, les femmes et les animaux. D'ailleurs, ça n'a pas beaucoup changé pour moi.
Les animaux, sans faire d'interprétation de bazar, quand on a un père boucher, Philippe Val.
Il n'aimait pas son métier. Il l'avait fait parce qu'il venait d'un milieu très pauvre et son père était un boucher pauvre et alcoolique. Mon père, qui était brillant à l'école, a dû quitter l'école à 12 ans pour couper de la viande. Donc il n'a pas eu le choix, mais il n'aimait pas ça parce qu'il n'était pas méchant avec les animaux. Mais il a beaucoup réussi dans sa carrière. De tout petit boucher pauvre, il est devenu un boucher riche.
C'était une grande boucherie ?
Non, c'était une petite boucherie de banlieue pourrie.
Vous y alliez ?
Eh ben oui, quand je m'ennuyais pas mal et quand mon phono était en panne, parce que ça arrivait là, il y avait de temps en temps un ressort qui cassait, puis il y avait deux vieux au fond de l'impasse qui vivaient, le vieux il me le réparait. Alors j'aimais bien les vieux aussi, j'aimais bien les femmes, les animaux et les vieux. Et quand il réparait mon phono, j'allais me réfugier dans la boutique et je me mettais sous le bio et je regardais les bouts de bidoche tomber dans la sciure. Et j'écoutais les conversations entre les clients et mes parents, qui étaient des conversations des années 50. Ça parlait de l'Indochine, de l'Algérie, de machin qui avait le cancer, de son mari qui picolait, de l'autre, la fille qui mettait du rouge à lèvres à 16 ans, donc qui était une pute. L'autre qui avait un fils, on se demandait si, bon, des fois, il n'était pas... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Enfin, c'était ça, la boutique, des cancans, des machins, et je vous en mets un peu plus, mais je vous le fais pas payer. Et j'écoutais ces trucs, et puis, avec les trucs de sang, les tabliers tachés de sang qui dansaient devant mes yeux, j'étais caché sous le bio, dans la sciure. J'ai resté longtemps comme ça. Un peu comme dans le poème de Rimbaud, les poètes de 7 ans, voilà. Non, ça faisait pas mal. Après, quand j'ai découvert les poètes de 7 ans de Rimbaud, j'ai dit, ah merde, tiens, ça ressemble. Moi, j'étais pas renfermé dans la fraîcheur des latrines. J'étais juste sous le bio du boucher, quoi.
Des amis, malgré tout, quand vous dites...
Non, pas d'amis, non. Il y avait une petite fille, un peu plus âgée que moi, qui était des gens pauvres, mais qui n'avait pas décidé de devenir riche, contrairement à mes parents, qui étaient pauvres, mais qui avaient beaucoup d'ambition. Donc, c'était des familles très, très différentes qui évitaient de se fréquenter. Les uns étant considérés comme des pauvres définitifs et mes parents comme des gens en ascension. Et cette gamine était très un peu voyou, avait mauvaise réputation dans le quartier, elle avait une voix un peu cassée comme si elle fumait. Enfin, elle avait 5 ans, donc elle fumait pas, mais...
Et elle s'appelait comment ?
Elle s'appelait Françoise et je l'adorais vraiment. Et dès que je sortais dans la petite impasse, je l'appelais Françoise, Françoise. Elle descendait et on passait des après-midi ensemble. Et pas d'amis I, mais amis E. Et ce qui a continué d'ailleurs beaucoup dans... C'est bizarre quand j'en parle maintenant, mais les relations d'amitié avec des femmes sont vraiment nombreuses pour un homme. Plus... Je vois bien autour de moi que j'ai plus d'amis. Je parle pas de maîtresse, je parle pas de relations amoureuses, je parle de relations... Je me sentais bien avec les filles. Bizarre, non ? Je sais pas, enfin, les garçons, normalement, ils se sentent bien avec les garçons, mais c'était pas mon cas.
Qu'est-ce qui vous dérangeait chez les garçons ?
Leur brutalité, le truc de compétition que j'aimais pas... J'aimais pas ça. Le premier jour d'école était un cauchemar absolu. Plus tard, quand j'ai lu Dante, la Divine Comédie, je me suis dit, au moins, quand Dante rentre en enfer, il est avec Virgile qui le guide. Et il a au moins un compagnon pour lui expliquer ce qui se passe. Moi, je suis arrivé dans la cour d'école, j'avais pas Virgile avec moi. Et en plus, mes parents, mon père était un peu hygiéniste. À cette époque-là, on disait pas écologiste. L'écologie existait à l'époque. Elle était très, très à droite. Mon père était de droite, était d'une droite, la droite, si vous voulez. Bon, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus.
Quelle droite ? La droite ?
Bah bon, je pense qu'il a voté quand même pour le général de Gaulle, mais tout en critiquant, sans doute.
On parlait politique.
Oui, mon père s'intéressait à la politique. Il lisait deux journaux par jour. Oui.
Lesquels ?
Il lisait le Figaro le matin, France Soir le soir, comme presque tous les Français.
Vous en discutiez avec lui ?
Non. Enfin, pas à cet âge-là. Plus tard, oui. On s'est beaucoup engueulé, oui. On s'est beaucoup engueulé. Parce que, voilà, il était très réactionnaire. Mais en même temps, il n'était pas facho. Il avait de la compassion pour le corps humain, quand même. Comme pour le corps des animaux. Enfin, sauf quand il nous tapait dessus, mais... C'était pour des raisons amoureuses qu'il nous tapait dessus. C'était parce qu'il voulait pas se faire chier avec sa femme. Et c'était pour lui prouver son amour qu'il tapait sur les enfants de son ex-femme. Mais il nous aimait quand même comme père. Il nous aimait. Il nous aimait, mais pas très bien, quoi. D'une façon maladroite, d'une façon disgracieuse, d'une façon douloureuse.
Comment vous souvenez-vous de votre évolution après l'école, quand vous avez cessé d'être un garçonnet pour rentrer au collège, puis au lycée?
Alors ça a été vraiment... ça a été de mal en pis, en fait. Parce que... Alors, l'école communale, bon, c'était pas de la tarte. Moi, j'étais trop délicat dans la cour de récréation. J'étais un bavard et un raisonneur. J'avais envie de discuter, les jeux brutaux me faisaient peur, j'étais une chochotte, quoi. Et puis en plus, j'étais très coquet. Alors je m'habillais trop bien pour une école communale de Paris, du 15e arrondissement, parce qu'on habitait le 15e à Paris. Et puis bon, éventuellement, j'étais un peu brutalisé parce que je me réfugiais dans ce dandisme, c'est un peu bête, un peu orgueilleux... Et j'étais pas bien adapté. Ça, bon. Alors les cours, l'école, si j'apprenais très vite, j'avais une bonne mémoire, j'étais bon en calcul, et j'étais très très bon en français. J'avais une passion pour la grammaire. Je sais pas pourquoi. Bon, la grammaire, ça m'amusait énormément. Il y a peu d'enfants que ça amuse, mais alors moi, ça me faisait vraiment, ça me mettait en joie. J'adorais ça. Et puis après, on m'a dit mais c'est mieux si tu vas... Vous savez, les parents, comme ça, quand ils sont recomposés à l'époque, enfin, je sais pas comment c'est maintenant, ils ont pas trop envie d'avoir les enfants à la maison. Parce que c'est source de conflits. Donc, ce qui était quand même ingénieux, c'est de les mettre en pension. Parce que comme ça, pendant qu'ils étaient en pension, à la maison, tout était normal. Donc, ils m'ont foutu en pension. Dans un collège... dont je garde énormément de souvenirs. Ça s'appelait pompeusement l'Académie royale de Juilly. Ça avait été ils avaient une histoire assez d'enseignement, de l'enseignement assez moderne, puisque ils enseignaient des cartes contre l'avis des autorités religieuses au XVIIe siècle. Et dans ce collège, c'était horrible. Je veux pas rentrer dans des détails trop sordide, mais j'ai eu la colique pendant des mois, tellement c'était la peur, en quelque sorte. Des dortoirs de 80, tout faire en rang, des abrutis partout. Alors, il y avait beaucoup de messes, les messes c'était calme, les prières et tout ça. J'ai une bonne éducation religieuse, ce qui fait que quand je vais au Louvre, je comprends les tableaux, ce qui est une bonne chose, parce que quand les gens ne savent rien, finalement, de l'histoire biblique et ils sont un peu emmerdés quand même pour comprendre la culture. Donc et puis il y avait des choses que j'aimais au collège. J'aimais bien les cours de latin parce que la professeure de latin avait un parfum formidable, très très bon. Et elle était assez coquette. Et dans ce monde où les femmes n'étaient pas coquettes. Et grâce à cette élégance qu'elle avait, j'ai remporté des prix de latin, de grammaire latine. Parce que j'aimais tellement ça, et puis j'aimais qu'elle m'aime. Enfin, et puis c'était pénible, sinon la vie était difficile. Mais on trouve toujours des interstices par lesquels on peut se glisser. Et plus tard, bien plus tard, quand j'ai lu la vie d'Ivan Denisovitch de Solzhenitsyn, bien que la violence qu'ont subi les gens qui sont allés au goulag est hors de proportion avec ce que j'ai souffert, mais néanmoins les structures sont communes de ce monde concentrationnaire. et surtout le panoptisme, surtout le fait que il y avait un lit 80 centimètres, donc notre espace privé faisait 80 centimètres sans cloison, c'était la largeur d'une chaise et d'une table de nuit. Dans des dortoirs hein, comme ça, avec énormément de lits, et pas de vie privée. J'ai l'horreur totale de ça, mais ça. Et aujourd'hui, si j'ai des idées politiques qui sont assez banales finalement, que je partage avec un maximum de gens, je pense, elles sont extrêmement sensibles à tout ce qui, dans la société, peut amener un totalitarisme. J'ai une sensibilité exacerbée à tout ce qui menace l'intimité.
T'étais croyant?
Non, pas du tout. J'ai essayé parce que je pensais que Dieu, Jésus, Marie, enfin, tout ça pouvait être des compagnons merveilleux à qui on pouvait s'adresser n'importe quand. Donc j'aurais vraiment aimé y croire. Mais je n'y croyais pas du tout, non. Très jeune, j'ai eu une autre vision du monde.
Êtes-vous resté dans cette pension pour le lycée Philippe Val?
Non. Parce qu'au bout d'un moment, ils ont vu que j'étais tellement associable, que j'étais tellement rebuté par cette vie de pensionnat, que même le père supérieur a convenu qu'il valait mieux me foutre ailleurs. Alors je me suis retrouvé dans un cours privé dans le 7e arrondissement, où là j'ai été très heureux. Très heureux parce qu'il y avait très peu de discipline. Et puis des jeunes gens parisiens, modernes, des copains... On était une petite bande, passionnée par la littérature. On allait dans les cafés, on séchait les cours, on faisait des parties d'échecs, on parlait de Nietzsche, de Zola beaucoup, parce que c'était notre héros. Il y avait un garçon qui avait redoublé sa 6e, je crois, ou qui était donc un an de plus, et qui était extrêmement homosexuel. C'est-à-dire, il le savait peut-être pas encore à ce moment-là, parce qu'il était amoureux de la prof de français, amoureux d'une copine, amoureux de Barbara, qui débutait, enfin qui commençait à être un peu vedette. Et c'était un garçon très intelligent. Et je suis frappé aujourd'hui de voir, parce qu'il était très caricaturalement homosexuel. C'est-à-dire qu'il avait des manières extrêmement précieuses et efféminées, comme quand un hétérosexuel essaye de se foutre de la gueule d'un homosexuel. Et personne ne se foutait de sa gueule. C'est marrant parce qu'à cette époque-là, dans ce petit cours de cette école du 7e arrondissement, il y avait une indifférence à ça, c'était avant 68, qu'aujourd'hui on ne retrouve pas. Enfin, les gosses qui sont homosexuels comme ça dans des écoles, ils en voient toutes les couleurs. Alors que mon pote, on trouvait ça normal. Il était très lettré, il avait lu Proust, Dostoïevski, enfin, il était incroyable ce type.
Mais 68, vous aviez 16 ans, Philippe Val.
Oui. Alors mai 68, dans notre petit groupe, la fille, il y avait surtout une fille, une ou deux, mais surtout une qui avait une personnalité assez forte, et elle a beaucoup participé, elle nous racontait, donc elle allait un petit peu sur les barricades, mais surtout elle couchait avec un mec, et ce qui était assez intéressant pour nous, de savoir comment ça se passait, et donc... Mai 68, ça a été vraiment, pour moi, vraisemblablement la découverte, à cette époque-là, dans l'œuvre de Zola, de l'affaire Dreyfus, tout ça, ces années-là, qui ont inoculé, en quelque sorte, en moi, une espèce de pensée politique, alors que j'étais un crétin politiquement, on savait rien, quoi, si vous voulez, bon. Et puis, ce que nous racontait Aline de ses rapports sexuels, avec le mec qu'elle avait trouvé sur la barricade. Et elle disait... parce qu'elle était amoureuse de moi. Mais moi, j'étais amoureux d'une autre fille, d'une coiffeuse. C'est qu'il n'y a pas de hasard. Hein. Comme maman, quoi. J'avais une petite coiffeuse avec laquelle je couchais, qui était mignonne comme tout. Et ma bonne copine Aline, qui était une fille formidable, pas très belle, mais d'une intelligence magnifique. Elle était amoureuse de moi, mais on baisait pas... Et sa mère lui disait, mais elle était très moderne, sa mère. Elle lui disait, tant mieux, t'as raison de pas coucher. C'est pas grave si tu couches pas avec ce garçon, parce que Philippe, elle me connaissait, sa mère était, il est bien trop romantique, ça fait des très mauvais amants. Et elle avait raison, et ça m'a longtemps complexé. Donc 68, ça a été cette découverte que j'étais potentiellement peut-être un mauvais amant. Et puis surtout aussi, Aline, un jour, elle nous a dit, mais je pensais que la fellation, c'était pour les vieux. Mais en fait, pas du tout. Elle avait donc 15 ans à l'époque. Fellation, cunnilingus, ça. Elle en parlait avec un naturel qui nous a ouvert vraiment beaucoup d'horizons. Pour moi, 68, c'est aussi ça, la découverte que la fellation et le cunnilingus étaient quelque chose de pas réservé à des gens très loin de nous, dans l'âge, dans...
Ce que vous venez d'évoquer peut avoir une signification politique, Philippe Val, mais néanmoins, ça n'est pas ça la politique. Vous avez dit tout à l'heure que mai 68 avait été pour vous l'occasion de découvrir la politique. Laquelle? Comment?
Quand on est môme, on essaie d'être juste d'une façon radicale et contre les parents qu'on trouve injustes. Donc on pense un peu l'inverse des parents. On est antiraciste. Je pense que la base, c'est ça, c'est l'antiracisme. C'est le béaba, quoi. Mais il y a une vraie fascination quand même pour Zola.
Pourquoi?
D'abord parce que j'aime l'écrivain, je lis tous les Rougon-Macquart. Zola, c'était comme, je l'aimais comme un groupie aime sa chanteuse ou son chanteur. Et puis tout d'un coup, je découvre Zola dans l'affaire Dreyfus, donc je m'intéresse à l'affaire Dreyfus, je lis des livres sur l'affaire Dreyfus. Et là, je comprends quelque chose, je comprends, je reviendrai plus jamais en arrière, j'ai une admiration sans borne pour Zola. Je crois que j'en chiale quand je à cette époque, quand je m'intéresse à cette affaire. C'est drôle parce que récemment, le hasard a voulu que les descendants du capitaine Dreyfus me demandent de les accompagner à Tel Aviv pour inaugurer la statue de leur aïeul avec Martine Blonzola, l'arrière-petite-fille d'Émile Zola. Et voilà, on est partis ensemble, on est devenus amis. Et c'est comme si mon enfance se bouclait presque avec les descendants du capitaine Dreyfus et ceux d'Émile Zola. Donc, je pense que mon grand éducateur politique, ça a été Zola.
Vous participiez à mai 68, Philippe Val, les barricades?
Non, pas du tout. Oh là là, c'était bien trop brutal pour moi, mais je suis une petite nature. Enfin, j'étais très maigre, j'étais un peu faible, je me sentais pas du tout un athlète. J'ai longtemps pensé que mes parents me cachaient que j'étais infirme. J'ai cru que mes parents me dissimulaient que j'avais un corps très très maigre et une très grosse tête. J'avais un doute. Et après, le doute, c'est un petit peu... Donc j'entendais de ma fenêtre, je suis allé boulevard Saint-Michel sur mon Solex pour voir comment ça fumait, mais non, parce qu'en plus les débats étaient trop virulents. Mais je trouvais ça amusant. J'étais pour.
Merci beaucoup, Philippe Val. À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Guillaume Erner avec Philippe Val. À voix nue, réalisation Lionel Quentin, prise de son Marie Le Peintre, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.